Chapitre 44. Les Bandakars cherchaient l'inspiration en marchant de long en large au sommet du col. Certains avaient les yeux baissés et d'autres regardaient la statue de Kajarang, l'homme qui avait banni leurs ancêtres. Quelques-uns jetaient des coups d'œil furtifs à leurs compagnons. Ils brûlaient d'envie de leur demander conseil, mais ils s'en tenaient aux ordres de Richard. Lorsque le sourcier vint se camper devant eux, un des plus jeunes résistants se dirigea vers lui. Ce garçon avait paru fasciné par les propos de Richard, et il semblait y avoir mûrement réfléchi. Si celui-là votait non, le combat serait perdu avant même d'avoir commencé. Mais il ouvrit le poing et dévoila deux cailloux. Richard en soupira de soulagement. Au moins, il aurait réussi à convaincre un de ses interlocuteurs. Un autre homme se présenta devant le sourcier et lui montra deux cailloux. Sans trahir ses sentiments, Richard hocha simplement la tête et fit signe au type de s'écarter. Les autres attendaient en ligne face au sourcier. Ils avancèrent, ouvrirent le poing puis s'éloignèrent. Tous montrèrent deux cailloux à Richard, indiquant qu'ils refusaient de faire pression sur lui en le menaçant de mort. Owen passa le dernier. Tendant le bras, il ouvrit le poing et souffla. « Vous ne nous avez fait aucun mal. » Lui aussi avait opté pour deux cailloux. « J'ignore ce qu'il adviendra de nous, » ajouta Owen. « Mais nous n'avons pas le droit de recourir au chantage face à un homme tel que vous. »« Merci, » dit simplement Richard. Son sincère soulagement fit sourire d'aise plusieurs Bandakars. « Votre vote a été unanime. Je suis content que vous ayez tous opté pour la même solution. Nous avons désormais de solides fondations sur lesquelles bâtir un avenir commun. » Les résistants se regardèrent, visiblement surpris, puis ils se réunirent par petits groupes et s'ébaubirent d'avoir pris la même décision sans s'être consultés. Constater qu'ils étaient unis les réjouissait et Richard ne pouvait pas les en blâmer. Très satisfait, il alla rejoindre Callan, Kara, Jensen et Tom. « Alors, j'ai perdu l'esprit ?» demanda-t-il à son épouse et à sa garde du corps. La mort de Sid croisa agressivement les bras. « Et qu'auriez-vous fait s'ils avaient choisi l'autre solution ?»« Je n'aurais pas été plus avancé que maintenant, mais pas moins. J'aurais pu les aider, mais en sachant que je ne pouvais pas me fier à eux. »«
Et si tu avais obtenu un résultat mitigé ?»
demanda Callan, toujours très mécontente.
« Par exemple, une courte majorité de oui ?»
« Eh bien, après avoir appris où est l'antidote, j'aurais dû tuer ceux qui auraient voté non. » Kara sourit de satisfaction. C'était exactement comme ça qu'elle voyait la démocratie. Moins convaincue, Callan hocha cependant la tête. Jensen, en revanche, eut l'air profondément choqué.
« En votant non, lui expliqua son frère, ces hommes auraient choisi de me réduire en esclavage par le biais d'une sentence de mort. Dans l'action, je n'aurais jamais pu me fier à eux, et nous ne sommes pas en position de nous exposer à la trahison. Mais c'est une affaire réglée à présent, alors inutile de nous tourmenter pour rien. »
Richard se tourna vers les Bandakars.
« Vous avez décidé de me rendre ma vie. »
L'air soudain très grave, les hommes se turent et tendirent l'oreille. Le sourcier regarda la statuette qui le représentait. Le sable continuait de couler et la couleur noire gagnait inexorablement du terrain. Sa vie lui coulait entre les doigts comme de l'eau et il serait bientôt à court de solution. Les nuages étaient si sombres désormais qu'on se serait cru au crépuscule, pas au milieu de l'après-midi.
« Nous allons faire de notre mieux pour vous aider à chasser l'ordre de chez vous, » annonça-t-il. Des vivas saluèrent cette déclaration.
Richard vit sur le visage des Bandakars des sourires franchement épanouis. Cette réaction révélait à quel point il rêvait d'être débarrassé des soudards de l'ordre. Mais serait-il toujours aussi ravi quand le sourcier leur révélerait le rôle qu'il leur réservait? Richard avait une priorité. Nicolas, le chapardeur. Tant que ce sorcier pourrait les espionner à travers les yeux des coureurs, le sourcier et ses compagnons seraient en danger, et ils n'auraient pas les coudées franches pour semer partout dans l'ancien monde la graine qui conduirait à une révolte contre l'ordre impérial. Il n'y avait pas que ça. Grâce à son pouvoir, Nicholas était en mesure d'envoyer des tueurs à Richard et à ses amis. L'idée que ce monstre sache où était Callan glaçait le sang de Richard. Le sorcier devait être éliminé. En tuant le chef des envahisseurs, Richard contribuerait peut-être à la libération de l'Empire Bandakar. Richard fit signe aux résistants d'approcher. « Avant que nous parlions du salut de votre peuple, vous devez me montrer où vous avez caché l'antidote. » Owen s'agenouilla, s'empara d'une pierre pointue et dessina un grand ovale sur une partie plate du sol rocheux. « Ce tracé représente les montagnes qui entourent Bandakar. » Il posa la pierre au bout de l'ovale du côté de Richard. « Voici l'emplacement du col où nous sommes en ce moment. » Il ramassa trois petits cailloux et posa le premier tout près de la pierre. « C'est Witherton, notre ville. On y trouve de l'antidote. » « Et vous vous cachiez autour de la cité, dans les collines ?» demanda Richard. « Essentiellement dans la partie sud, » répondit Owen. Il posa son deuxième caillou au milieu de l'ovale. « Cette ville se nomme Northwick. C'est là qu'est caché le deuxième flacon d'antidote. » Enfin, il déposa le troisième caillou au bout de l'ovale. « Autumn, la troisième ville où est dissimulé un flacon d'antidote. » « Si je comprends bien, » dit Richard, « il me suffit d'aller dans une de ces cités et de récupérer un flacon. Votre ville étant la plus proche et la moins grande, c'est probablement notre meilleure chance de réussir. » Quelques hommes secouèrent tristement la tête et d'autres détournèrent le regard. Très gêné, Owen toucha tour à tour chaque caillou. « Je suis navré, Seigneur Rall, mais un flacon ne suffira pas. Le poison agit depuis trop longtemps. Au point où nous en sommes, deux ou trois flacons ne feront pas l'affaire. L'homme qui a conçu le poison nous a prévenus. Si le délai dépassait quelques jours, les quatre doses d'antidote deviendraient nécessaires. Vous avez pris la première, mais trop tard pour qu'on puisse s'arrêter là. Toujours selon cet homme, l'intoxication va passer par trois phases, et vous aurez besoin de tous les flacons. Si vous ne les buvez pas, vous périrez. »
« Trois phases ? Que veux-tu dire ? » ?»«
La première est la douleur dans votre poitrine. La deuxième est une sensation de vertige qui vous empêchera de tenir debout. »
Misérable, Owen baissa les yeux.
« Lors de la troisième, vous serez aveugle. »
Il tapota le bras du sourcier pour le rassurer.
« Mais ne vous en faites pas, les trois doses vous sauveront et tout ira très bien. »
Richard s'essuya le front d'un revers de la main. Sa poitrine continuant à lui faire mal, il supposa qu'il en était toujours à la première phase.
« Combien de temps me reste-t-il ? »
« Je n'en sais rien, Seigneur Rall. Voilà déjà pas mal de temps que vous avez bu la première dose. J'ai bien peur que nous devions nous hâter. »«
Combien de temps ? » insista Richard.
« Eh bien, pour être franc, Seigneur, je suis surpris que vous supportiez encore la douleur de la première phase. D'après ce qu'on m'a dit, elle s'aggrave de jour en jour. »
Richard hocha la tête et ne tourna pas les yeux vers Callan. Alors que les soudards de l'ordre grouillaient dans l'Empire, récupérer un flacon tenait déjà de l'exploit, alors retrouver les trois.
« Puisque le temps presse, » dit Richard, « j'ai une meilleure idée. Préparez-moi de l'antidote. Nous n'aurons plus à nous soucier de ce problème et nous nous concentrerons sur la libération de votre Empire. »
« Désolé, mais c'est impossible. »
« Comment ça ? Vous avez su préparer quatre doses d'antidote. » « Faites-en d'autres !»«
Impossible !»
répéta Owen.
« Pourquoi ?»
demanda Richard. Owen désigna le sac de toile qui contenait les doigts de trois fillettes.
« Le père des petites, c'était lui notre herboriste. Le seul d'entre nous capable de fabriquer des substances aussi complexes que le poison et son antidote. Aucun de nous ne peut le faire. Nous ne savons même pas quels ingrédients il a utilisés. » Il y a peut-être d'autres herboristes en mesure de préparer l'antidote, mais nous ne savons pas où les trouver en supposant qu'ils soient encore vivants. Avec les soudards de l'ordre, qui peut le dire? De toute façon, nous ne connaissons pas la composition du poison. Ce sont des données indispensables pour définir celle de l'antidote. Navré, Seigneur Rall, mais votre seule chance est de retrouver les trois flacons.
Richard avait si mal à la tête qu'il redoutait de perdre conscience d'un instant à l'autre. S'il n'existait que trois flacons, il devait les récupérer avant que l'un d'eux soit cassé ou vidé par inadvertance. Si l'antidote était perdu, il n'aurait pas une chance de s'en tirer, et chaque inspiration lui faisait de plus en plus mal. La phase 1.
quel était le symptôme principal de la phase 2 déjà?
Il ne parvenait pas à se le rappeler.
Callan lui posa une main sur l'épaule, l'arrachant à la panique qui menaçait de le submerger.
« Seigneur Hall, dit un des Bandakar, nous vous aiderons à trouver l'antidote. »
Tous les résistants affirmèrent qu'ils feraient l'impossible pour sauver leur libérateur et ami.
« La plupart d'entre nous connaissent au moins 2 villes sur les 3,
dit Owen,
et quelques-uns sont même passés par les 3. C'est moi qui ai caché les flacons, mais j'ai indiqué l'endroit à tous mes camarades. Je ferai de même avec vous afin que nous sachions tous où chercher. »
« Bien, puisqu'il faut en passer par là. »
Richard se pencha pour étudier la carte rudimentaire composée par Owen.
« Où est Nicolas ?»
Owen désigna le caillou le plus éloigné.
« Il a élu résidence à Houghton. »
Richard riva son regard gris sur le Bandakar.
« Ne me dis pas que... Bon sang, tu as caché le flacon dans la demeure de Nicolas ?»«
Sur le coup, ça m'a paru une bonne idée. Aujourd'hui, j'en suis moins fier, évidemment. »
« Je m'étonne que tu ne l'aies pas remis en main propre au sorcier, »
marmonna Kara,
« en lui demandant de le garder jusqu'à ton retour. »
Pressé de changer de sujet, Owen indiqua le caillou qui représentait Northwick.
« C'est là que se cache le sage. Les grands porte-paroles accepteront peut-être de nous aider, et si le sage nous donne sa bénédiction, le peuple tout entier participera à notre lutte contre l'ordre impérial. »
Avec tout ce qu'il avait appris sur les Bandakar, Richard doutait qu'il puisse lui être très utile. Ces gens désiraient être libérés de l'oppression, mais ils réprouvaient moralement la violence. Une telle contradiction semblait insoluble. Owen et ses résistants étaient différents parce qu'ils avaient choisi de ne pas courber l'échine. Ce serait à eux de convaincre leurs compatriotes. Même s'ils réussissaient, il leur faudrait beaucoup trop de temps.
« Pour atteindre votre légitime objectif, « anéantir l'ordre ou au moins le chasser de chez vous, vous allez devoir mettre la main à la pâte. Callan, Kara, Jensen, Tom et moi n'y arriverons pas seuls. Pour que ça marche, nous aurons besoin de votre assistance. »«
Que devrons-nous faire ?»
demanda Owen.
« Nous vous conduirons dans les villes où sont cachés les flacons, c'est entendu, mais qu'attendez-vous de nous à part ça ?»«
Que vous nous aidiez à tuer les soldats de l'ordre. »
Aussitôt, un concert de protestations perça les tympans de Richard et de ses compagnons. Tous les Bandakar parlaient en même temps. Dans cette cacophonie, Richard ne comprit que quelques mots, mais il n'y avait pas besoin d'être devin pour savoir ce qui se passait. Les résistants refusaient catégoriquement de tuer.
« Vous savez ce que ces hommes ont fait !»
dit le sourcier d'une voix puissante qui réduisit au silence les Bandakar.
« Vous avez fui pour ne pas être exécuté ou subir les mêmes mauvais traitements que vos amis. Et vous n'ignorez rien de ce qu'endurent vos femmes entre les mains des hommes de Jagang. »«
Mais nous ne pouvons pas tuer, »
gémit Owen.
« C'est impossible. »«
Ce n'est pas dans notre philosophie, »
renchérit un homme.
« Vous bannissiez les criminels, »
rappela Richard.
« Que se passait-il lorsqu'ils refusaient de partir ?»
« Quand c'était nécessaire, »
répondit un résistant d'âge mûr,
« nous nous groupions pour l'immobiliser, afin qu'il ne puisse plus nuire. Puis nous lui attachions les mains et nous le portions jusqu'à la frontière. Là, nous lui disions qu'il devait quitter l'Empire. S'il refusait toujours, nous le portions jusqu'à une descente très raide, une pente rocheuse, et nous le poussions, les pieds devant, pour qu'il glisse jusqu'en bas. Arrivé à ce point, le banni ne pouvait plus revenir en arrière. »
Richard s'étonna des efforts que ces gens produisaient pour ne pas blesser les pires meurtriers. Combien de victimes devait faire un tueur avant que les nobles Bandakar se décident à sévir? Le sourcier préférait ne pas le savoir.
« Nous avons compris beaucoup de choses aujourd'hui, » dit Owen, « mais nous ne pouvons pas accepter de tuer. On nous a appris à respecter la vie. »
Richard ramassa le sac en toile plein de doigts et le brandit pour que tous les hommes le voient.
« Vos amis et vos proches prient chaque jour pour que quelqu'un vienne à leur secours. Imaginez-vous leur terreur? Je sais ce qu'on ressent quand on est torturé et qu'on pense que ça ne cessera jamais. À ces moments-là, on désire seulement que ça s'arrête, et on ferait n'importe quoi pour en finir. »«
C'est votre travail, »
lança un homme.
« Vous devez nous débarrasser de l'ordre. »«
N'ai-je pas déjà dit que je n'y arriverais pas seul? Si vous ne m'aidez pas, que ferez-vous ? Capituler face à des bouchers pareils n'arrangera rien, vous le savez très bien. Les soldats de l'ordre sont l'incarnation du mal, et vous devez les combattre.
Si vous parliez à ces hommes comme vous venez de le faire devant nous, ils renonceraient à leurs errements, ils changeraient, c'est une certitude.
Non, ils ne prendraient même pas la peine de m'écouter. Pour eux, la vie n'a aucune importance. Ils ont choisi de torturer, de violer et de tuer. Notre seule chance est de les anéantir.
Nous ne pouvons pas tuer,
dit un homme.
Ce serait le mal absolu,
renchérit Owen.
Blesser ou tuer quelqu'un est toujours immoral,
dit un troisième homme.
Les êtres malfaisants souffrent et ils ont besoin de compassion, pas de haine. La colère engendre la colère, et la violence est un cercle vicieux qui ne résout jamais rien.
Richard eut le sentiment qu'il venait de reperdre tout le terrain gagné précédemment. Alors qu'il allait se passer une main dans les cheveux, une sorte de tic chez lui, il s'avisa que ses doigts étaient rouges de sang. Une vision qui lui suggéra un nouvel angle d'approche.
« Vous m'avez empoisonné pour me forcer à tuer ces hommes. C'était déjà reconnaître qu'il est parfois nécessaire de tuer pour sauver des innocents. Comment pouvez-vous prétendre qu'il est mal de tuer et obliger quelqu'un à le faire à votre place? C'est un crime par procuration. »«
Nous méritons d'être libres !»
s'écria un homme.
« Nous pensions qu'un chef de votre envergure pourrait convaincre les envahisseurs de quitter l'Empire parce qu'ils auraient peur de vous.
C'est bien pour ça que vous devez m'aider. » Il faut en effet que nos ennemis aient peur de moi. Si rien ne les menace et s'ils ne voient pas leurs camarades tomber autour d'eux, pourquoi quitteraient-ils l'Empire?
Nous espérions que vous nous libéreriez sans recourir à la violence,
dit un nouvel homme.
Mais si vous le jugez utile, libre à vous de tuer, pour nous c'est hors de question. Depuis la fondation de l'Empire, les anciens enseignent aux jeunes que prendre une vie est un péché. Faites-le si ça vous semble indispensable.
Oui, faites-le!
Cria un autre résistant.
« Vous substituez à nous est votre devoir. »
Devoir, un nom fleuri pour l'esclavage. Richard se détourna, ferma les yeux et se serra les tempes entre le pouce et l'index. Il avait cru avoir fait un pas en avant avec ces hommes. Il avait espéré leur apprendre à penser par eux-mêmes, plutôt que de débiter les fadaises dont on leur avait bourré le crâne. Et après tout ce qu'il leur avait dit, ces résistants préféraient voir souffrir leurs proches plutôt que de nuire à leurs bourreaux. En refusant de regarder la réalité en face, ils assuraient la victoire du mal sur le bien et celle de la mort sur la vie. Non, c'était encore plus simple que ça. Ces fous niaient l'existence même du mal, tout le problème était là. Chaque inspiration manquait à présent d'arracher un cri de douleur à Richard. Il devait se procurer l'antidote, le temps pressait. Mais son problème était encore plus compliqué que ça. Son don le tuait aussi sûrement que le poison. La migraine était si forte qu'il redoutait de vomir, et la magie de son arme l'abandonnait. Richard redoutait le poison, mais il avait encore plus peur de la mort tapie au cœur même de son être. Si dangereuse fût-elle, la substance toxique pouvait être vaincue. Contre le don, il se sentait impuissant. Le sourcier chercha le regard de sa femme et constata qu'elle n'avait aucune solution à lui proposer. Elle se tenait bien droite, prête à tout, mais incapable de répondre aux attentes de son mari. Richard posa les yeux sur la statuette qu'il avait confiée à sa femme. Ce maudit artefact affirmait que son devoir était de remettre en place la frontière. Comme si sa vie ne lui avait pas appartenu, comme si elle était la propriété de tous ceux qui entendaient lui dicter ses actes. Le devoir était un poison comparable à la substance que lui avait fait boire Owen, une absurde incitation au sacrifice. Richard prit la statuette à Callan et l'étudia intensément. La moitié de l'artefact était noire à présent. Sa vie se consumait et le sable continuait de couler. Le délai expirerait bientôt. La statue de Kajarang, le sorcier mort qui avait chargé Richard d'une mission impossible, semblait le narguer du haut de son socle. Derrière le sourcier, les Bandakar bavassaient pour se donner du courage. Ils répétaient que tuer était mal, qu'ils devaient rester fidèles à leurs idéaux, que les soldats de l'ordre pouvaient être remis dans le droit chemin si on leur témoignait de la compassion. Ils parlaient du sage et des grands porte-paroles qui se dévouaient corps et âme à la cause de la non-violence. Tous étaient d'accord, ils devaient suivre la voie ouverte par les pères fondateurs de leur empire. car c'était à eux qu'ils devaient leurs coutumes, leurs croyances, leurs valeurs et leur façon de vivre. Tenter d'élever le niveau de raisonnement de ces hommes était aussi difficile que de les soulever tous ensemble avec une seule corde. Et cette corde venait de casser. Richard était piégé par les convictions absurdes de ces gens. Il était également coincé par le poison, les migraines, les espions de Nicolas et les manigances d'un foutu sorcier mort depuis des millénaires. Ça faisait beaucoup, et il ne pouvait plus contenir sa colère. Armant son bras, il lança la balise sur l'imposante statue de Kadjarang. Les Bandakar baissèrent la tête pour éviter le projectile qui alla exploser contre le socle de la statue. Des morceaux d'ambre et de pierre noire volèrent dans toutes les directions et le sable s'écrasa au pied d'un pilier en granit. Les résistants se turent. La couverture nuageuse était si basse qu'on aurait cru pouvoir la toucher en tendant la main. Deux petits flocons tourbillonnaient dans l'air et un brouillard glacé enveloppait les pics. Encore épargné, le col ressemblait à un îlot où la vie résistait envers et contre tout. Tous les regards étaient rivés sur Richard. Alors, il se souvint des mots gravés sur le socle de la statue. « Craignez toute brèche dans la frontière qui isole ce grand empire, car il abrite des démons, ceux qui ne peuvent pas voir. » Depuis le début, quelque chose le gênait dans cette traduction, comme s'il était tombé dans un piège tendu par cette étrange syntaxe. « Par les esprits du bien, » murmura Richard, « je me suis trompé. Ça veut dire autre chose. »